appeler un chat, vous avez la parole.
Merci bien. Alors, je voudrais vous parler de la littérature de Sartre. Appeler un chat, Sartre est la lettre. À plusieurs reprises, comme dans Sartre, un film, Sartre a évoqué les mots comme un adieu à la littérature. Cela suggère qu'il tiendrait désormais la littérature pour une illusion ou qu'il aurait acquis, en rédigeant les mots, la conviction que la littérature ne justifiait pas les espoirs qu'il avait fondés sur elle. S'agit-il là d'un simple détail biographique qui ne dévalue en aucune sorte l'apport et l'importance des analyses littéraires de Sartre? Il est vrai que de telles remarques, reprises par exemple par Bernard-Henri Lévy et transformées par celui-ci en un tombeau littéraire, en un tombeau de la littérature, c'est le titre de son chapitre qu'il consacre à la littérature dans l'œuvre sartrienne, suggère que Sartre voulait vraiment se détourner de la littérature. Il se peut que ses études sur Baudelaire, Mallarmé, Genet et Flaubert, sur bien d'autres artistes comme sur lui-même avec les mots, aient amené Sartre à cette conclusion pessimiste, surtout si l'on considère que ses écrits étaient surtout un moyen pour Sartre de s'interroger sur sa propre écriture. Cependant, ses portraits d'artistes, notamment ses portraits d'écrivains, forment, à côté de la philosophie et de la littérature, un troisième domaine de son œuvre dont il voulait qu'il fît le lien entre la philosophie et la littérature. Voilà qui invite donc à considérer le sens et la portée de l'adieu à la littérature au-delà de la seule perspective biographique. Les étudiants en littérature romane en Allemagne, mais aussi ailleurs, connaissent souvent mal, voire pas du tout, l'apport théorique de Sartre aux études littéraires. Cela est surtout dû à des regrettables lacunes de manuels qui passent souvent sous silence la théorie littéraire de Sartre. Il mentionne encore moins les études de Sartre sur tel ou tel auteur, pas plus que le foisonnement de toutes sortes d'approches d'interprétation que représente son étude sur Flaubert. Cette contribution devrait donc encourager les étudiants, leur donner l'envie de découvrir un Sartre littéraire que BHL leur semble vouloir cacher. Les écrits de Sartre sur la littérature, notamment dans « Qu'est-ce que la littérature ?», paru en 1947 dans le temps moderne et republié l'année suivante en un volume séparé, reste donc une importante introduction aux études de lettres. On y reconnaît les idées majeures concernant les lettres qui se représentent comme l'embauche d'une phénoménologie de la littérature dont on peut dégager un certain nombre de critères précis qui nous conduisent à rappeler les tâches incontournables de la littérature aux écrivains et aux lecteurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la littérature est sans doute étroitement liée à son époque. L'urgence politique laissait déjà apparaître la confrontation de deux blocs qui allaient rapidement dégénérer en une guerre froide. En exprimant leur désaccord avec sa notion d'engagement, en soupçonnant Sartre d'abuser des lettres au profit d'une idéologie, des critiques avaient poussé Sartre à formuler une réponse. Celle-ci, longue et détaillée, partait d'une définition de la littérature pour aboutir à une définition du rôle de l'écrivain en 1947. Je laisse de côté la distinction entre la prose et la poésie, selon laquelle cette dernière serait du côté de la peinture, qui ne fait de montrer en laissant l'observateur libre de voir ce qu'il veut, tandis que l'écrivain se sert des mots comme des signes. En évoquant des choses, il les transforme et les dépasse, ce qui fait qu'il en est responsable. Notons qu'il y en a des critiques qui préfèrent ne parler que des auteurs défunts, car leurs livres ont depuis longtemps perdu tout danger et ils évitent cette responsabilité. Chaque œuvre littéraire, avec son pouvoir inhérent de changer quelque chose, est donc un appel à la liberté. Ce constat est au cœur des réflexions de Sartre et elle rappelle les passages qui fondent la liberté dans l'être lénien. Donc, qu'est-ce que la littérature ? C'est la liberté de l'auteur qui devient un appel à la liberté du lecteur, auquel celui-ci, dès qu'il ouvre le livre, ne saurait se soustraire. C'est leur effort commun qui crée cet ouvrage de l'esprit. Cette réévaluation du lecteur est un mérite incontestable de la théorie de Sartre. En effet, Sartre propose une théorie de la réception qui, dans sa clarté, est bien supérieure à celle de Hans-Robert Jauss. Jauss, professeur à Constance, se voulait être le fondateur, au début des années 60 à Constance, d'une esthétique de la réception. Certes, Yauss mentionne parfois Sartre, mais en somme, les articles, par exemple, dans Wikipédia, en allemand et en français, sur la théorie de la réception telle qu'elle est issue de l'école de Constance, passent l'apport de Sartre en silence. Tout écrivain qui commence à écrire est engagé, qu'il le veuille ou non. Et Thiamble estime qu'une telle attitude fait perdre toute valeur à un engagement, et Sartre lui répond dans son livre, « Bien sûr, un écrivain est engagé dès sa première ligne, mais beaucoup d'entre eux se dissimulent cet engagement et donc leur responsabilité. » Le rapport entre auteur et écrivain, Sartre y évoque aussi le truchement du livre, conduit à approfondir l'analyse de leur relation par l'embauche d'une histoire littéraire. En effet, l'histoire littéraire insérée dans Qu'est-ce la littérature n'est point un chapitre à part, elle fait partie intégrante de l'argumentation de Sartre qui cherche à formuler une esthétique de la littérature pour en arriver au statut de l'écrivain d'aujourd'hui. Ses propos peuvent aider les étudiants d'aujourd'hui à réapprendre la valeur, l'importance et la signification de l'histoire littéraire dont on tient de moins en moins compte. Sartre montre comment on conçoit une vision qui aide à comprendre le développement de la littérature dans les différentes époques. Les auteurs du siècle des Lumières, par exemple, ont une part de responsabilité dans la chute de l'Ancien Régime, comme beaucoup d'autres qui, à travers leurs livres, ont su exercer une influence sur leur époque. La littérature, et pas seulement la littérature française, présente donc un caractère éminemment politique. Un auteur qui mentionne un fait social exige de son lecteur une prise de conscience, et c'est le premier réflexe d'une pensée politique. Souvent, les étudiants se demandent selon quels critères on devrait analyser ou commenter un roman. Comment peut-on juger la valeur d'un roman? Peuvent-ils partir de la vie de l'auteur? Et peu d'entre eux réussissent à élaborer une interprétation en partant de la réception de l'œuvre en question. Qu'est-ce que la littérature ne leur livre pas de solutions pratiques toutes faites, mais on peut en dégager des critères qui leur fournissent des valeurs esthétiques qui facilitent le commentaire d'une œuvre littéraire. Dès son premier mot, l'écrivain prend position, il est engagé, il cherche notre acquiescement ou provoque notre critique. En tout cas, nous pouvons toujours aller plus loin. Si son œuvre facilite et soutient ce mouvement, le livre est bon. L'auteur exige de nous rendre compte de nos attentes, de comparer notre savoir antérieur avec celui que nous tenons du livre, et ainsi de déterminer si le livre nous permet d'aller plus loin. Voilà un premier critère de la théorie littéraire sartrienne. Ensuite, Sartre propose une distinction entre le mauvais et le bon roman. Je vais vite, je résume, vous ignorez pas que l'argumentation de Sartre est plus subtile. Sans doute, il y a des mauvais romans qui visent à plaire en flattant, ou qui se soustrait à la liberté et préfère l'asservissement. En revanche, le bon roman est un acte de foi. Et très souvent, la littérature conduit le lecteur à la bataille. Et prendre position, c'est assumer la liberté. Des créneaux de force, dit Sartre, vous êtes engagé. On comprendra facilement un critère de la qualité des ouvrages. Plus un livre se réfère à la tradition, il est mauvais. En revanche, les lecteurs reconnaissent plus ou moins consciemment la générosité de l'écrivain. Est-il prêt à donner? Son travail est gratuit, il est indépendant pour être ajouté, et il respecte donc sa liberté comme celle de l'auteur. Les écrivains n'en restent pas là, ils prennent position dans la vie politique. Voilà un critère supplémentaire qui peut nous aider, nos étudiants, à se prononcer sur un ouvrage. Il y a un critère qui ne compte pas pour Sartre, c'est l'explication qui se fonde sur le milieu, car il ne correspond pas à l'idée de base sartrienne. Sa réponse est simple et convaincante à la fois. Écrire signifie toujours dépasser une certaine situation de l'homme. En revanche, il y en a qui ne tiennent pas compte de tout ce qu'ils pourraient voir. Ces écrivains obscurcissent leur lanterne, selon Sartre. Cela arrive aux auteurs et aux lecteurs, bien entendu. Dans son histoire littéraire, Sartre évoque le miroir que l'écrivain tend au début du XIXe siècle à ses lecteurs. Écrire et lire vont ensemble, les deux activités révèlent un germe du changement. Écrire et lire, cela veut dire comparer ses visions aux autres, les aider à élargir l'horizon, d'aller plus loin ensemble. Et sous-entendu, le lecteur deviendra de plus en plus libre de reconnaître ce changement. Quelle est l'influence qu'un livre peut exercer sur son époque? Voilà donc une question qui découle du critère qui tient compte du degré d'influence qu'un livre pourrait atteindre. Et cette question, comment, quelle influence un livre, un auteur pourrait exercer sur son époque, c'est le contenu du livre que je fais en sorte de mélange pour mon professeur il y a 4 ans avec 2 étudiants ensemble, qui s'appelle « Littérarische Autonomie intellectuelle et engagement ». Et l'idée principale était de rassembler des études sur des écrivains qui ont exercé une influence sûre et certaine sur leur époque. Un critère toujours important, c'est la beauté. La beauté d'un livre ne suffit pas. De toute façon, il est impossible d'écrire son mythe et son public. Sartre en déduit l'écrivain en situation, ce qui explique sa liberté dans des époques différentes. Il ne s'agit pas forcément d'une schématisation que Sartre nous présente, c'est la liberté inhérente à la littérature qui est une source de progrès. Il en découle que l'auteur présente un portrait de son époque qui dépasse son présent et présente un jugement au nom de l'avenir. Nous atteignons ici à ce que je viens d'évoquer, à ce pouvoir de prédication, en d'autres termes à la capacité de la littérature d'annoncer des changements sociaux futurs ou tout au moins de les anticiper. Sous le coup immédiat de la guerre et à l'époque de la rédaction de Qu'est-ce la littérature, tout change. La découverte de l'historicité compte parmi les thèmes majeurs du développement de la pensée sartrienne. L'auteur appartient à son époque, mais cela ne lui interdit pas de lever les yeux. L'auteur ne doit pas plaire. S'il garde vraiment son indépendance, il réussit à communiquer au public ses exigences et à faire naître le besoin de lire. Et c'est facile. Le conseil de Sartre, c'est que l'auteur doit historialiser la bonne volonté du lecteur pour que celui-ci saisisse librement un ouvrage comme une opportunité de lutter contre l'oppression, contre toute servitude. Écrire, parler, c'est rien d'autre que prendre position en faveur de la liberté. On se demande ce que les auteurs veulent communiquer, des messages, des idées, ou bien leurs ouvrages, par la force des circonstances, disent-ils plus que leurs auteurs ne veulent dire. De là vient ce critère, une œuvre n'est jamais belle, dit Sartre, qu'elle n'échappe en quelque manière à son auteur. Les lecteurs sont sensibles et ils reconnaissent facilement si l'auteur est sérieux. Promettent-ils tout sans distinction? Sartre, en tout cas, recommande de ne pas vouloir atteindre le socialisme comme une fin absolue, mais seulement son commencement, et donc faire en sorte que l'homme puisse profiter de sa liberté et reconnaître à la fois négativité et construction. Finalement, la fonction d'un écrivain est appelée un chat un chat. Ce constat apparaît dans un passage où Sartre souligne la nécessité d'un nettoyage du langage. Beaucoup de notions ont changé de signification, et l'écrivain aurait tout intérêt à nommer le fait tel qu'ils sont. On pourrait y reconnaître un critère stylistique qui nous fait pencher davantage sur le texte avant d'en étudier son influence. La vocation d'un écrivain est de démystifier le public, tout en s'élevant contre les injustices. La littérature ne change-t-il rien? C'est seulement vrai si l'on se tait. Sartre souhaite que l'écrivain d'aujourd'hui représente le monde et en témoigne. Le dernier chapitre, Situation de l'écrivain en 1947, nous suggère la question sur quoi un auteur en 2011 devait-il écrire? Il devait prendre position face au risque nucléaire, sur la révolution dans le pays arabe. Il devrait porter un regard critique sur le mass-média, y compris l'Internet, et les tentations des réseaux sociaux, notamment le vol d'identité et la manipulation indiscrète des données personnelles. Il devrait s'exprimer dans la politique européenne et tant d'autres sujets, sans oublier les droits de l'homme. Sartre était bien conscient de l'importance des mass-médias et il recommande aux écrivains d'y participer, d'avoir, je cite, « un pied dans la place ». Or, les médias et les prix littéraires d'aujourd'hui tendent à réduire de plus en plus le libre choix des lecteurs. La plupart des best-sellers sont proclamés par les mass-médias. L'usage de l'Internet complique tout. Même la conférence des G8, dernièrement à Deauville, laisse transparaître leur désir d'en reprendre les rênes. D'autre part, cette ouverture, la rédaction des contenus à plusieurs auteurs, souvent anonymes, comme les personnes qui écrivent pour l'encyclopédie Wikipédia, soumet chacun au contrôle de tous ses collègues auteurs-correcteurs. Ils sont tous convaincus de représenter l'intelligence collective. On se méfie des maisons d'édition en sous-estimant leur succès de faire connaître le livre. Le mouvement Open Access compte aussi parmi ce qu'on pourrait appeler les mystifications de l'Internet. En effet, le mouvement Open Access exige l'accès libre et gratuit aux informations scientifiques, aux articles issus de la recherche financée par le pouvoir public. Les critiques d'Open Access estiment, c'est surtout qui se sont réunis sous l'appel de Heidelberg, initié par le professeur Reuss à Heidelberg, les critiques d'Open Access estiment à juste titre qu'on soumet les auteurs aux contraintes d'un groupe et qu'on les empêche de pouvoir décider librement du lieu où ils souhaitent publier leurs articles. La surévaluation des forces de l'intelligence collective, une autre mystification d'aujourd'hui, met aussi les métiers de l'écrivain en danger, qu'un nombre plus ou moins grand d'individus pourrait s'arroger le droit d'évaluer ou de corriger ses écrits. S'agit-il d'une auto-utopie? Je pense que non. Les auteurs de Wikipédia se soumettent déjà à un tel régime. L'étonnement de ceux est grand quand ils voient pour la première fois que des inconnus s'emparent de leur contribution personnelle pour les corriger, les supprimer ou les développer. C'est un avant-goût de ce qui nous y attend. Les écrivains doivent être sensibles à ces tendances. Contourner les maisons d'édition pourrait aussi amener le fervent de l'Internet à sous-estimer le rôle de l'écrivain pour ensuite tenter de le récupérer en lui promettant de fortune et de la publicité s'il se soumet aux règles du collectivisme. On reconnaît facilement les tâches de l'écrivain d'aujourd'hui. Il doit veiller au maintien de son indépendance et donc à sa liberté. En parlant des révoltes dans les pays arabes, on cite plus souvent les réseaux sociaux comme Facebook qui ouvrent des frontières. Après tout, ce Facebook est peut-être un mouvement plutôt éphémère. Dans 2 ou 3 ans, on en parle peut-être comme aujourd'hui du Minitel. Par contre, il est vrai que les recherches concernant la contribution de l'Internet à la littérature est encore à ses débuts. La question du public reste cruciale. L'écrivain peut-il choisir son public ou renonce-t-il à ce choix dès lors qu'il entre en contact avec les masses médias? Souvent, à la fin des interviews conduites pour mon blog littéraire, les auteurs répondaient à la dernière question « Pour qui écrivez-vous ?» en disant « Pour tout le monde ». Mais peut-être pensaient-ils plus aux recettes de leur vente qu'à leur public réel. Les questions essentielles, les débats autour des grandes questions de société, de la culture politique, l'orientation de la politique extérieure ne sont que rarement au centre de publication aujourd'hui, des publications des écrivains d'aujourd'hui. On éprouve de plus en plus l'impression de littérature plus ou moins sage, appartenant aux belles-lettres, mais mettant peu en question la vie politico-sociale. Plus largement, nous avons le droit de nous demander si les écrivains d'aujourd'hui élèvent suffisamment leur voix contre les injustices et la servitude dans le monde. Malgré la position de Sartre qui voulait désigner la littérature comme une illusion, il est vrai que ses œuvres littéraires et théoriques fournissent encore aujourd'hui un fondement solide aux études de lettres. En effet, ses écrits théoriques et ses portraits d'artistes proposent des approches nombreuses qui aident à mieux saisir la genèse, la production et la réception de ses œuvres littéraires. On peut par exemple affirmer que ses études sur les artistes mettent à l'épreuve ses études, ses idées esthétiques et littéraires pour en évaluer la portée et les affirmer avec éclat, voire les développer. Il suffit de rappeler que l'idiot de la famille présente toujours encore une mine littéraire sans égale dont on est encore loin d'avoir épuisé toute la richesse. Sartre y a développé, en s'appuyant par exemple sur l'exemple Flaubert, la manière dont un écrivain se forge les outils qui lui permettront d'écrire un roman moderne. Dès que l'on cesse de comprendre l'étude sur Flaubert comme une biographie et que l'on s'attache au contraire à envisager comme une étude pratique de la naissance d'un écrivain, une étude d'un courant littéraire, théorie de la réception, théorie de la production, pensez seulement à la comparaison des deux éducations et théorie de l'écriture qui conduit Flaubert à son roman, où on a toutes les raisons de douter que Sartre était vraiment sérieux en parlant d'un adieu à la littérature. Après tout, ne prenons pas l'adieu à la littérature de Sartre trop au sérieux. Les acquis de ses écrits sur la littérature, notamment de Qu'est-ce la littérature, sont trop importants pour être écartés au profit de quelques remarques sartriennes auxquelles on prête trop attention. On devrait donc se tenir plutôt à la remarque sartrienne que si la littérature n'est pas tout, dit-il dans une interview avec Situation 9, avec Chapsal, elle ne vaut pas une heure de peine. Le plus important est qu'écrire est un engagement. Cette idée, Sartre ne l'a jamais abandonnée. Les études sur les artistes, avant tout l'étude sur Flaubert, sont largement tributaires de la théorie littéraire de Sartre, de sorte que que l'œuvre d'art, en tant qu'objet de recherche, figure comme un point de convergence de toutes les théories sartriennes et comme l'une des meilleures affirmations de la liberté humaine. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette communication très, très serrée, en fait, dans le temps. On n'a pas l'habitude de ça.